l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Aujourd'hui, c'est Mercure. Non, pas de voyage dans le système solaire vers la planète la plus proche du Soleil, on aurait trop chaud. Pas de référence non plus au dieu du commerce pour les Romains. Quand on dit Mercure aujourd'hui, on s'intéresse à ce métal si étrange puisqu'il est liquide à température ambiante. On le voyait dans les anciens thermomètres. Le problème, c'est que le mercure est loin d'être inoffensif, il est même dangereux pour la santé humaine. Notre invité est médecin, il n'est pas chimiste, il n'est pas spécialiste du mercure, mais il est membre d'une association de défense de l'environnement. Il joue ici un rôle de lanceur d'alerte, pourrait-on dire. Car il y a du mercure dans les eaux de la rade de Brest. C'est d'ailleurs surveillé par l'IFREMER. Nous allons détailler tout ça avec notre invité. Bonjour Yves Osier.
Bonjour.
Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association que vous représentez aujourd'hui, Vers le Relais Kerhuon? Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est une association qui a été créée en 1919, en 2019, et qui vise, en fait, l'objectif, c'était de fédérer, de rassembler les habitants qui se souciaient de l'adaptation de leur commune dans l'avenir aux urgences environnementales, climat, biodiversité, etc. Et qui trouvaient finalement que la majorité municipale en place sous-estimait peut-être ces enjeux-là. Et puis le deuxième objectif était de promouvoir un fonctionnement plus démocratique de la municipalité, de façon à ce que les habitants participent au projet, participent aux décisions. Et donc, il a été mis en place un programme, on a beaucoup travaillé.
Vous avez présenté une liste citoyenne municipale, en fait.
Voilà, on a présenté une liste municipale qui a fait un résultat assez honorable, puisqu'on a fait 27% des voix.
Oui, c'est même très honorable. Et vous n'êtes pas affilié à un parti politique.
Nous ne sommes pas affiliés à un parti politique, non. Voilà.
Mais votre association, finalement, continue à exister indépendamment des élections.
Voilà, elle continue à exister. On a un site internet qui est www.verlerelaiskerhuon, vers V-E-R-T, le relais Kerhuon, sans tiret, sans point, etc., .fr. Voilà.
Et vous menez quoi comme action en général?
Eh bien, des actions qui tournent beaucoup autour de l'urbanisme. Voilà, c'est aussi là où on souhaiterait conduire les habitants à être concernés dans les décisions qui sont prises en matière d'urbanisme.
Ouais, un peu trop d'artificialisation,
voilà.
de bétonisation, si on peut dire, c'est ça. Enfin, vous veillez au grain, quoi, comme on dit.
Voilà.
Et pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé au mercure? Enfin, je ne sais pas si c'est toute l'association ou si c'est vous en particulier.
Alors, oui, c'est un peu tout le monde, mais enfin, c'est moi qui m'étais un petit peu chargé de plonger là-dedans, de plonger dans le mercure. Alors, tout ça est venu finalement d'un projet immobilier un peu controversé qui se situe sur la partie du Moulin Blanc, la plage du Moulin Blanc, enfin qui est en regard de la plage du Moulin Blanc, située sur la commune du Relais-Kerhuon, donc la partie sud-est. Et ceux qui connaissent savent qu'il y a un petit bosquet de pins qui est tout à fait charmant. Et ce projet immobilier vise à raser ce petit bosquet pour y mettre un immeuble de 5 étages en front de mer. Et voilà, dans une zone qui est potentiellement submersible en plus. Donc on s'est opposé à ce projet pour plusieurs raisons, et entre autres parce que ça consiste finalement à transférer à des intérêts privés ce qui est un bien commun, puisque c'est une zone qui est accessible à tous, où les gens peuvent se promener. Il y a pas mal de monde qui circule par là. Et donc, on s'est un peu intéressé. Or, il se trouve que ce terrain-là est en fait... autrefois, il y avait une usine là, qui fabriquait un explosif, qui était le coton-poudre, dont on truffait les obus. Et cette usine a été sabotée en 1940 à l'arrivée des troupes allemandes. Et puis ce terrain a été rendu en partie à la nature. Et puis on a aussi construit il y a eu les abattoirs de la ville de Brest. Puis ensuite, il y a eu le Spadium Park que les auditeurs doivent connaître.
C'est la piscine, quoi, en gros.
Voilà, c'est la piscine, voilà.
C'est ça, ouais.
Et donc ce terrain, on a eu la notion qu'il était pollué au mercure.
À cause sans doute de l'activité industrielle. Quoi.
Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas réussi à avoir des concentrations, des mesures. Brest Métropole, on nous a renvoyé sur la mairie. À la mairie, on nous renvoie sur le promoteur qui ne nous répond pas. Donc, voilà.
Vous avez alerté sur la présence de mercure ?
Ça se savait. Ça se savait, Relais-Kerhuon, dans les discussions, ça revenait régulièrement, ce terrain. On nous avait dit au départ que c'était pollué à l'arsenic. En fait, il s'avère que c'est pollué au mercure.
Oui. Peut-être aussi de l'arsenic. Voilà. L'un n'exclut pas l'autre. Voilà. Parce qu'en fait, c'est utilisé, le mercure est utilisé dans la fabrication du poudre coton.
Alors, c'est un détonateur. Le fulminate de mercure est un détonateur qui servait un peu d'amorce, quoi. Pour les cartouches, les obus, etc. Donc, il est assez logique de penser qu'effectivement, il y a eu du fulminate de mercure dans le coin.
Et alors, donc vous avez creusé le mercure. Alors déjà, il faut peut-être expliquer pourquoi. Pourquoi le mercure, en fait, parce que c'est dangereux. Mais comment est-ce que c'est dangereux? Enfin, à quel stade, sous quelle forme c'est dangereux, alors?
Alors, c'est un produit très, très, très écotoxique. C'est toxique pour la faune, c'est toxique pour la flore, c'est toxique pour l'homme, pratiquement sous toutes ses formes. Alors, il y a, disons, trois formes essentielles de mercure. Ça peut se présenter sous forme métallique, c'est le métal brillant liquide qu'on connaît.
Dans les thermomètres,
dans les appareils de mesure de la tension, etc. Et puis, cette forme liquide est en équilibre avec une phase gazeuse, enfin des vapeurs, qu'on peut inhaler, et sous cette forme-là, c'est toxique. Surtout, je dirais, dans le milieu professionnel qui manipule cette substance-là. Mais ce n'est pas forcément la plus toxique. Il y a une autre forme qui sont des sels de mercure, ce qu'on appelle le mercure inorganique. Ce sont des sels, des chlorures, des sulfures de mercure qui peuvent être toxiques aussi, mais qui sont difficilement absorbés. Et puis il y a une troisième forme, et qui c'est celle-là qui est la plus problématique aujourd'hui, qui est le mercure organique, ce qu'on appelle le méthylmercure, et qui peut provenir finalement de la transformation des formes précédentes par des bactéries présentes dans le sol, présentes dans l'eau, et qui transforme donc ces formes moins toxiques de mercure en méthylmercure, qui lui est extrêmement toxique parce qu'il est absorbé par voie digestive.
Alors c'est là qu'il faut peut-être aussi parler de la toxicité, puisque vous êtes médecin, ça tombe bien. Qu'est-ce que ça fait en gros aux humains, le mercure ?
Eh ben, le mercure, ça donne surtout une c'est toxique pour plein d'organes, mais c'est surtout toxique pour le système nerveux. C'est neurotoxique. Un des problèmes est très lié au fait que ce méthylmercure s'accumule dans les tissus et en particulier dans l'eau, présent dans le plancton, donc il finit par être présent chez les poissons, et puis il s'accumule et il s'amplifie au fur et à mesure qu'on monte dans la chaîne élémentaire. Alimentaire.
Oui, il se stocke en fait, quoi. C'est ça à chaque fois.
C'est, ouais. Ça.
C'est la bioaccumulation, comme
on
dit.
C'est la bioaccumulation.
La dioxine, c'était pareil, je crois. C'est ça, non?
Oui. Ouais.
D'accord.
Il y a plein de polluants pour lesquels c'est un vrai problème. Et finalement, donc, les espèces qui sont les plus contaminées sont les espèces prédatrices. Donc, c'est les grands poissons, c'est les thons, c'est les requins, c'est les espadons, et puis aussi au bout de la chaîne alimentaire, potentiellement il y a l'homme, quoi.
C'est ça, les humains, voilà. Qui mangent du poisson, bien
voilà.
Sûr. Et dans les coquillages aussi, on peut trouver du mercure éventuellement.
Oui. Ah, dans les coquillages. Il y a des coquillages qui accumulent bien le mercure, en particulier les huîtres, les moules, qui sont d'ailleurs les coquillages que l'Ifremer surveille. Voilà.
Et il est présent, enfin, en fait, le mercure, il est présent à l'état naturel. Enfin, c'est pas l'homme qui a créé le mercure, on est d'accord, c'est ça?
Oui, il est présent sous forme, il est présent naturellement. C'est un métal qui est présent dans les roches magmatiques. Donc, les éruptions volcaniques dégagent du mercure. On en trouve dans plein de choses. On en trouve dans le pétrole, dans le charbon, etc. etc. Il y en a. Voilà. Et donc, mais c'est finalement, l'origine est souvent, surtout anthropique. En fait, c'est l'homme qui en fabrique, qui l'extrait.
Qui n'en fabrique pas, mais qui va le chercher, ouais, c'est
ça. Il va le chercher, qui l'utilise. C'est utilisé dans plein d'industries.
Par exemple.
Électrique, d'électronique, c'est dans les cimenteries, dans les etc. etc. C'est extrêmement utilisé.
Et pourquoi ? Enfin, il sert à quoi, en fait, en gros ?
Il est beaucoup utilisé comme pour amalgamer des métaux. Un des problèmes qui existent aujourd'hui dans le monde, qui est l'utilisation par l'orpaillage clandestin du mercure pour amalgamer l'or. Hein. En gros, il attire les paillettes d'or, il forme un amalgame avec, et ensuite on chauffe. Le mercure s'évapore, parce qu'il s'évapore facilement, puisque c'est un métal qui devient facilement en vapeur. Donc on le chauffe à 400-500 degrés et puis on récupère l'or. Voilà. Et c'est ce qui se passe en Amazonie. Et c'est un vrai danger pour les populations qui vivent le long des fleuves et qui vivent de la pêche et qui mangent donc des poissons qui sont contaminés avec le mercure qui s'est évaporé et qui va finir par être dans les eaux de ruissellement et arriver dans les rivières, quoi, dans les fleuves. Et autant il existe aujourd'hui, comme c'est reconnu comme étant un produit très écotoxique et que c'est considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme un des 10 produits les plus dangereux pour la santé publique, autant il y a des conventions internationales pour essayer de maîtriser un peu la pollution par le mercure.
Oui, c'est ça, oui.
Au niveau des États. Avec leur paillage clandestin, voilà.
Et par définition, leur paillage étant clandestin, on ne peut pas trop surveiller ce qu'ils font avec. Parce que sinon, il y a des moyens de contenir la pollution au mercure. Enfin, quand c'est une industrie surveillée et contrôlée, comment on fait, en gros
Il faut interdire plein d'usages.
Même
qu'on a interdit, finalement, la présence dans les thermomètres. C'est un petit peu comme ça que... Voilà.
Et donc, en rade de Brest et même dans le secteur dans le Finistère, on sait que de toute façon, le mercure a été utilisé, dans le passé, là, pour une extraction minière qu'on connaît bien, nous, par exemple, c'est ça, à Poulaouen. Vous pouvez nous en parler ?
Alors, on a la chance, finalement, en France, d'avoir des réseaux nationaux d'observation du milieu marin qui sont... coordonnées par l'IFREMER, qui ont été mis en place par l'IFREMER et qui existent pour certains depuis les années 70. C'est le cas pour la rade de Brest. Et donc la rade de Brest fait l'objet de prélèvements réguliers, prélèvements des sédiments et prélèvements des mollusques bivalves. En fait, on prend, pour la rade de Brest, c'est l'huître, hein, puisque c'est surtout de l'huître. Et donc, dans la chair, on dose finalement le mercure. Et c'est fait depuis longtemps. Donc, on a pas mal de données qui sont publiques, d'ailleurs. On arrive à les trouver sur Internet. Il y a des rapports très intéressants à lire.
Et alors ?
Voilà.
Ouais.
Et il y a du mercure, effectivement, dans les sédiments. Il y en a même beaucoup. Et il y a trois métaux qui sont particulièrement surveillés. Il y a le plomb, le cadmium et le mercure. Et on sait, donc, pour les trois d'ailleurs, il y en a dans les sédiments de la rade de Brest et il y a du mercure dans les sédiments de la rade de Brest. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les prélèvements de chair de coquillage montrent qu'il y en a finalement relativement peu. En tout cas, moins qu'on ne pourrait le penser. Et c'est particulièrement surveillé au niveau de l'embouchure de l'Aulne. Pourquoi ? Parce que l'Aulne, dans son bassin versant, il y a les mines de plomb argentifère de Poulaouen-Huelguat, et qui continuent finalement à ramener des tas de métaux, et en particulier du mercure, du cadmium, du plomb, etc.
Parce que pour extraire le plomb argentifère, on avait aussi besoin de mercure, quoi.
Ben, en général, c'est des minerais qui sont polymétalliques. Il y a plein de métaux là-dedans.
Voilà. Okay. Et donc, en fait, ça n'a pas été dépollué, évidemment. Enfin, c'est des mines qu'on fermait dans les années 70 et ça n'a pas vraiment été dépollué. Donc, est-ce que ça continue à se déverser ou est-ce que c'est plus ça s'est déversé et puis voilà, c'est là, quoi.
Non, ça continue. C'est le ruissellement à partir de cette zone-là qui finalement se draine dans l'Aulne et qui aboutit dans la rade de Brest. Alors, pour la rade de Brest, il y a quelque chose qui est assez étonnant. Enfin, pour le mercure, en rade de Brest, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que il semble que les Lornes apportent autant que l'Aulne de mercure, alors que ce n'est pas le cas du tout du cadmium ou du plomb. Et on ne sait pas pourquoi.
C'est l'Ifremer qui mesure ça.
L'Ifremer a prélevé à l'embouchure de l'Élorne et il y a du mercure et il y en a quasiment autant qu'à l'embouchure de l'Aulne. Donc il y a une source de contamination par le mercure au niveau de l'Élorne. Voilà.
Et ça pourrait être quoi ? C'est quoi les hypothèses alors ?
Alors, j'ai une hypothèse personnelle qui est que les prélèvements étant faits à l'embouchure et en aval de la pyrotechnie Saint-Nicolas, où autrefois on fabriquait des obus et où donc on a probablement manipulé du fulminate de mercure, et ben c'est que cette pollution vient de la pyrotechnie Saint-Nicolas.
Qui n'a pas été trop dépolluée non plus, quoi. Enfin...
Voilà, mais c'est une hypothèse. Il faudrait vérifier. Donc, pour vérifier, il faudrait que j'ai d'ailleurs suggéré ça à des chercheurs de l'Ifremer, de prélever en amont pour voir.
Oui, c'est ça, avant pour voir si c'est moins pollué. Enfin, oui. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse. Enfin, qu'en pense l'Ifremer ?
Non, mais c'est très, très, très récent.
Oui, d'accord. Bon, on vous tiendra au courant. Voilà. D'accord. Et donc, en fait, pour faire le point... La quantité de mercure présente, enfin en tout cas qu'on a pu mesurer dans les coquillages et dans les sédiments, est-ce qu'elle est en augmentation ? Est-ce qu'elle est stable ?
Elle apparaît stable.
Bon, donc c'est qu'il y a plus de sources de, on peut supposer qu'il y a plus de sources de pollution actuelles du.
Je sais pas, les mesures de tendance, l'Ifremer est assez prudente dans son rapport en disant que voilà, ça nécessiterait des analyses un peu plus fines, voilà. Les analyses de tendance sont assez prudents, quoi. Il faut que ce soit des tendances à la baisse ou à la hausse franches pour qu'il conclue.
D'accord. Voilà. Bon. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on doit en tirer comme leçon ? Enfin, c'est ça,
alors,
en fait.
Il faut pas paniquer, mais ça nécessite que ce soit surveillé. C'est une chance parce que ça l'est. Et il faudrait surtout savoir pourquoi. Pourquoi finalement, pour l'Aulne, on sait. Pour les Lornes, il faudrait savoir pourquoi. Parce que c'est important, quoi.
Et sur la question de la dépollution, est-ce que ça pourrait être aussi envisagé, ça ? Ou est-ce que c'est trop tard, de toute façon, pour dépolluer des sites miniers très anciens comme Apulawen ?
Apulawen, ça va être difficile de dépolluer, je pense, parce que c'est quand même important. Pour le site du Moulin Blanc, enfin ce qu'on appelle le site de la cantine du Moulin Blanc, parce qu'autrefois il y avait la cantine des ouvrières et des ouvriers. Là. Ça employait quand même 3000 personnes, hein, cette usine, à un certain moment.
L'usine des obus qui a été explosée en 1940, celle-là.
Oui, l'usine du coton-poudre.
Du coton-poudre, oui.
On mettait dans les obus, mais ça je pense que c'était fait du côté de la pyrotechnie Saint-Nicolas, apparemment. Il est possible donc de dépolluer, ça doit être fait, ça a un coût certain, mais ça doit, c'est possible. Le promoteur dit qu'il va le faire.
Oui, c'est ça, parce qu'on en revient toujours à ce projet immobilier qui, pour l'instant, est toujours prévu, malgré.
Pour l'instant, oui, il y a des riverains qui ont fait un recours. Et pour l'instant, c'est pas l'affaire n'est pas close, mais le projet est toujours prévu et a le soutien de la municipalité.
Alors, comme il nous reste un peu de temps, est-ce qu'on peut parler de, sans vouloir faire peur quand même non plus, mais la baie de Minamata, de l'histoire de la baie de Minamata ?
Oui, alors on connaît les effets de la pollution au mercure par ce drame qui s'est produit au Japon. À Minamata, qui est une petite ville portuaire du sud-est, du sud-ouest du Japon, où s'est implantée une usine chimique au début du 19e siècle qui a commencé à rejeter dans la baie des résidus mercuriels, des déchets. Et puis, dans les années qui ont suivi, sont apparues des choses assez bizarres. D'abord, les chats devenaient fous. Les chats du port devenaient fous et se jetaient dans la mer, se noyaient. Et puis, dans les familles de pêcheurs, sont apparus des troubles neurologiques sous forme de tremblements, d'abord des troubles de la coordination des membres, des troubles de l'équilibre, des troubles du champ visuel, des troubles de l'audition, des troubles sensoriels, enfin des signes neurologiques de gravité variable, mais qui pouvaient aller jusqu'au coma. Et puis, des enfants, parce que ça, c'est une chose importante à dire aussi, c'est que la toxicité, il faut tenir compte de l'âge. C'est surtout chez les fœtus, donc finalement, indirectement chez les femmes enceintes, que c'est un problème. Et chez les petits-enfants, qui ont donc un système nerveux qui est en cours de développement. La toxicité est beaucoup plus grande dans ces populations-là, quoi.
Ouais, un système nerveux d'adulte résiste mieux, on va dire, au mercure, c'est ça ?
Voilà.
En gros. Ouais.
Et donc, il y a eu des enfants morts-nés ou des enfants qui sont nés mal formés.
Donc là, c'était quoi, les années 20, 30 enfin, c'est ça, en gros ?
C'est le début de la pollution, c'est la fin des années 30. Et puis, progressivement, apparaissent des cas. Ça a mis beaucoup de temps à être reconnu par, bien sûr, les industriels et par l'État japonais. Ça a mis énormément de temps. Et finalement, la certitude n'a été acquise que dans les années 1960.
Alors que l'usine s'était installée fin du 19e, donc il y a eu déjà un laps de temps avant que la pollution fasse son effet, entre guillemets, sur la population.
La pollution a commencé dans les années 1930. C'est là qu'ils ont commencé à rejeter.
Ah bon, d'accord, parce qu'il n'y avait pas de pollution. L'usine était là, mais elle ne polluait
pas
avant.
Elle était là depuis 1907.
D'accord, voilà. OK.
Et finalement, il y a eu... On dénombre 900 morts et quelque chose comme 13 000 patients à indemniser. C'est toujours en cours. L'instruction est toujours en cours. Donc, ça a pris énormément de temps.
Bon. Enfin, dans la rade de Brest, on n'en est pas là.
Non, loin, loin, loin de là. Mais là, ce qui se passait, donc, ils rejetaient directement dans la boue et finalement, les populations qui tiraient leur subsistance de la pêche et de la mer ont été extrêmement exposés. Et puis, les chats du port qui mangeaient du poisson.
Mmh. Ouais, voilà. Donc, c'est vraiment par l'alimentaire. En fait, c'est pas le fait, par exemple, de se baigner dans la baie. D'accord, ça, c'était
non.
pas...
C'est pas dans l'eau, finalement,
oui,
qui est le problème.
Ça. Ouais.
C'est dans les organismes vivants qui le concentrent.
D'accord. Et ça ne, comme, enfin, il y a un effet, j'imagine, de pour une rade ou pour une baie, il y a un effet peut-être de, il y a pas assez de brassage, ouais, c'est ça. Enfin, il y a pas de courant qui va disperser le mercure au large, quoi. En fait, ouais. C'est ça. Ouais. Ça va pas trop diluer le. Bon, très bien. Bon, ben, on suivra cette affaire. Merci, Yves Ozier. Est-ce qu'il y a un petit mot à dire sur Vers le Relais que, vous avez des actualités à nous signaler tant qu'on y est ?
Non, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait un peu plus de transparence sur cette pollution locale, que les données soient facilement accessibles et puis qu'on élucide finalement l'origine de la pollution qui existe au niveau de l'Élorne. Mmh. Voilà, je pense que c'est un devoir de transparence.
Voilà. Surtout, d'autant plus qu'il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter, quoi, en fait.
Voilà.
Donc, il n'y a pas de raison d'être opaque sur la question, quoi.
Voilà.
Ouais. Bon, bah, merci beaucoup.
Merci à vous.